Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc je vous remercie d'être là. Il fait très chaud. C'est pour ma santé. Oui. Ils ont peur que je tombe malade, mais bon, on va essayer de résister. Ceux qui sont en haut doivent souffrir encore beaucoup plus. C'est encore moi qui suis le mieux placé, quasiment. Donc, ce cours, cette année, va être un petit peu structuré différemment de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va faire une heure au sens large, ça peut déborder, je peux faire plus court aussi, ça va dépendre un tout petit peu de comment ça fonctionne. Mais c'est un cours qui sera plus, je dirais, un peu plus généraliste, un peu moins technique que l'année dernière, parce qu'en fait, j'ai eu plus de temps pour préparer que l'année dernière, donc... De faire un cours qui est plus dans l'idée que je me fais de ce que ce doit être, c'est-à-dire un peu moins dans le détail des techniques. Mais il y aura quand même évidemment des choses incompréhensibles. je vous rassure, ça l'est souvent pour moi aussi quand je veux le truc. Donc voilà, quoi, ça fait partie du plaisir, celui de ne pas comprendre. Donc l'année dernière, si vous voulez, je me suis pas mal attardé sur les morphogènes et sur la morphogenèse. Ça allait un petit peu de soi. Et cette année, je vais continuer cette question de la morphogenèse et des morphogènes, mais vu sous un angle un petit peu différent, qui est l'angle de l'évolution, ou plutôt des évolutions, au sens que le 18e donne à ce terme, c'est-à-dire évolution et développement. On dit souvent, et je vais y revenir, que une nouvelle discipline est née qui s'appelle Evo-Devo. Au XVIIIe siècle, c'était une même discipline, évolution et développement. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au cours du XIXe, vous verrez que de nombreux biologistes du développement du XIXe voyaient le développement dans une perspective évolutive. Ernst Haeckel, pour ne pas le nommer. Donc, les questions que nous avons abordées l'année dernière sont des questions sur les morphogènes. Avaient pour l'essentiel à voir, en fait, on peut résumer le cours de l'année dernière sur une seule diapositive. C'était bien la peine. Voilà. Est-ce que les morphogènes diffusent avec une source à travers un champ où vous avez un ensemble de cellules? Et je pense que j'ai donné la réponse. Je pense que non. Voilà. Donc... ou alors dans des conditions extraordinairement particulières, c'est-à-dire quand ils ont une aide à la diffusion sous la forme d'une protéine ou d'une molécule chaperone, un sucre, quelque chose dans ce genre-là. Donc, les solutions qui sont abordées à cette question de la diffusion des morphogènes, il y en avait plusieurs qu'on a discutées donc tout au long du cours. Et une, c'était le cytonème. Vous voyez que cette cellule envoie un prolongement qui est en fait une membrane qui entoure des filaments d'actine pour l'essentiel, pour aller chercher un morphogène à distance et le ramener vers le centre. Donc c'est une solution pour avoir une action morphogénétique à longue distance. Monsieur, vous avez plein de place. Est-ce qu'il faut de l'endocytose pour qu'un morphogène fonctionne? Et la réponse est ni oui ni non, ça veut dire qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui pensent que si le morphogène se fixe à l'extérieur sur un récepteur, il peut envoyer un signal sans endocytose. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut qu'il y ait de la capture dans le cytoplasme pour que ça marche. Et honnêtement, je crois que ça peut être l'un ou l'autre, selon les circonstances et selon les morphogènes. On a beaucoup parlé des cils. Vous vous rappelez, il y a eu toute une période sur les cils. C'était ma période cils, c'était la dernière d'ailleurs. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la période sucre, mais vous l'aurez un jour. J'attends d'en savoir un petit peu plus sur le sucre. Donc, dans lequel les morphogènes sont poussés par des petits battements de cils, comme ça, dans le liquide extracellulaire. Et puis, il y a une autre solution qui a été évoquée aussi pendant le cours, qui est la solution argosome ou exosome, où le morphogène est dans la cellule, dans une vésicule, c'est-à-dire en fait à l'extérieur de la cellule, sur le plan topologique, parce que quand on est dans une vésicule, dans une cellule, on n'est pas dans la cellule, on est en dehors de la cellule, bien entendu, fusionne, sort, est recapturé par la suivante, et donc peut se promener comme ça, le long d'un épithélium, sans avoir jamais, quasiment, avoir le monde extérieur, et donc éviter d'être bloqué. Parce que la raison pour laquelle je pense que ces morphogènes ne diffusent pas, en réalité, c'est parce que la surface des cellules est tellement épaisse, visqueuse, hein, c'est pas une toile cirée, eh bien que ces molécules ne sont pas capables de diffuser librement dans l'espace extracellulaire. Donc, je me suis un peu moqué, je fais un petit peu d'humour, facile, sur le drapeau français, plutôt sur le, je ne me serais pas permis, sur le problème du drapeau français, tel qu'il a été développé par Volpert, hein, Louis Volpert, qui lui, au départ, pensait qu'un morphogène pouvait partir d'une source, diffuser, et qu'en fonction de la concentration, les ensembles cellulaires vont adopter des couleurs différentes à cause de ce qu'on appelle des effets seuil. C'est-à-dire que toute cellule d'ici à ici qui va avoir une concentration supérieure au seuil 1 va devenir bleue, entre guillemets, bien entendu. Entre ce seuil 1 et ce seuil 2 va devenir blanche, et à partir du seuil 2 va devenir rouge. Et c'est ce que Louis Volpert a appelé le problème de drapeau français. C'est évidemment, ça repose sur l'idée que les morphogènes diffusent, hein, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qui est bien, c'est que Volpert ne le pense pas non plus, ne le pense plus en tout cas, car il vient d'écrire un article dans Cell disant qu'il renonce, en gros, à la diffusion des morphogènes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas le problème. Ça veut dire que simplement, ça évolue, quoi. Hein, c'est le cas de le dire. Et j'ai aussi remis en cause, l'année dernière, quelque chose qui est un grand classique de la biologie du développement, qui est le patterning antéro-postérieur de l'œuf de mouche, plutôt de l'embryon, parce que c'est un stade où il y a énormément de noyaux. On est déjà dans un syncytium au stade jusqu'au stade 1000 cellules, presque 2000 cellules, c'est-à-dire au bout de entre 10 et je dirais 13 divisions nucléaires. Et vous savez que Nusselin Vollaert et son laboratoire en particulier ont utilisé le modèle en fait, du drapeau français de Volpert. C'est le premier morphogène bicoïde, bien que ce soit un facteur de transcription, que bicoïde diffuserait et puis, en fonction d'effet seuil, induirait l'expression de gènes de développement qui commencerait à créer un pattern à l'intérieur de l'embryon. Ce que nous avons montré l'année dernière, c'est que ce n'était pas possible. C'était pas possible parce que si on mesurait les constantes de diffusion du morphogène, alors le morphogène serait synthétisé au pôle antérieur à partir du messager qui est ancré, et que si on mesure les constantes de diffusion de bicoïdes, on se rend compte que c'est totalement incompatible avec une diffusion. Donc, en fait, le mécanisme n'est pas un mécanisme entièrement fondé sur la diffusion. On ne sait pas très bien, en fait, combien ça marche. Bon, je sais que Nusselin Vollaert a eu le prix Nobel. Ça ne remet pas en cause le génie de ses équipes. Ça montre simplement que les choses changent. Et que ces travaux, bien entendu, ouvrent sur des travaux complémentaires. Si vous avez encore le temps de vous inscrire, d'ailleurs, le 14 octobre, en amphithéâtre Marguerite de Navarre, vous pouvez aller écouter Volpert, qui va venir raconter ses histoires de morphogènes, et aussi vous aurez la chance d'écouter Nicole Douarin et Walter Gehring dans le cadre de l'ouverture du bâtiment de biologie du développement de l'Institut Curie. Je pense que les dates d'inscription sont terminées, mais c'est jamais terminé, en fait. Donc, ne vous laissez pas faire. Voilà. En tout cas, essayez, ça peut toujours marcher. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, bien entendu. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ces modèles ont joué et jouent toujours, même si je pense qu'ils ne recouvrent que partiellement la réalité. Un modèle n'est jamais vraiment la réalité. Ils ont joué un rôle extrêmement important. Et bien entendu, ça vous prouve et ça vous démontre que les théories scientifiques sont des ensembles évolutifs, c'est-à-dire que ben sinon ce serait des dogmes. Et notre travail, c'est justement de faire en sorte que toute théorie devienne rapidement obsolète, d'où l'importance évidemment d'inventer. D'ailleurs, disait Einstein, pour inventer, il faut penser à côté. Non sans danger. Quand on pense à côté, il faut prendre ses précautions. Donc, je vous engage à penser à côté. Hein, mais bon, pas trop à côté. Voilà. Il faut mieux être prudent. Donc, comme je disais, Volpert vient de revenir sur son idée de diffusion des morphogènes et parce qu'il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas diffuser. Donc ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai probablement autour du cours. Alors, quand on se représente, hein, parce qu'après tout, je suis un biologiste vivant, mais quand on se représente, ou asseyez-vous sur les marches, je ne sais pas comment on peut faire, quand on se représente les étapes qui conduisent d'un œuf à un embryon, parce qu'un embryon à un adulte, bien entendu, l'organisme achevé, pour autant qu'un organisme s'achève, un organisme ne s'achève qu'à la fin. Il faut savoir que nous continuons à être en développement. C'est plus ou moins sympathique, mais on continue à se développer. Et quand on regarde se développer un embryon, on a l'impression, évidemment, d'un processus implacable. Hein. Donnez l'œuf, vous connaissez l'embryon. Et vous connaissez l'adulte. Si vous prenez un œuf de poule, il sort une poule, quoi, en gros. C'est ça que ça veut dire. Ça se produit au cours de milliards d'événements, depuis la prolifération cellulaire, les migrations, les morts, la différenciation. Et au bout du compte, malgré tout, vous avez une forme qui est assez prédictible. Donc, vous avez le sentiment que vous avez une robustesse extraordinaire du développement. Parce que, bien entendu, il y a énormément de bruit dans cette histoire. Hein. Donc, ça conduit, cette robustesse apparente du développement, nous conduit forcément à considérer le développement comme une suite ordonnée et programmée d'opérations mécaniques. D'ailleurs, au XIXe siècle, en Allemagne, et même au début du XXe siècle, la discipline développement s'appelait mécanique du développement. Donc cette mécanique du développement, c'est celle des embryologistes expérimentaux du XIXe, et elle appelle bien entendu la figure du intelligent design, que ce soit le grand horloger ou la nature, ce qui, au fond, ne remplace pas grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nature a remplacé le grand horloger, mais si on accepte, ou si on accepte ces idées que ça fonctionne exactement selon un plan qui est implacable et mécanique, fondamentalement, c'est sans doute un progrès, bien entendu, mais c'est peut-être un progrès mineur. D'ailleurs, je me rappelle, c'est une incidence, quelqu'un qui disait « j'ai pas besoin de l'hypothèse de X pour construire une souris », j'ai entendu ça, ça n'a pas de sens, parce que de toute façon, personne ne sait construire une souris, sauf à mettre deux souris ensemble, on ne sait pas très bien comment ça marche, on peut du compte, enfin, au début peut-être, mais pas après. L'idée de construction d'une souris est une idée qui est vraiment une idée de type intelligent design. Je vous engage aussi à penser qu'il n'y a pas un déterminisme aussi absolu qu'il y paraît dans toutes ces histoires. On ne construit pas un mécanisme comme on construit une voiture. Hein. Alors, ici, les roues, ici, le capot, en suivant le plan qui est donné par le fabricant. On ne construit pas un organisme comme ça. Plutôt, un organisme ne se construit pas comme ça. Et surtout, un organisme n'évolue pas comme ça. Faut pas confondre mécanicien et matérialiste. Il ne faut pas trop jouer au mécano, quoi, en gros. Ou pas avoir trop joué au mécano, ou avoir oublié que quand on était petit, on avait joué au mécano. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Parce que, bien entendu, si un organisme se construisait de façon mécanique, comme une machine, il vous serait en apparence robuste, mais il n'aurait plus de capacité d'évolvabilité. Parce qu'en fait, ce qui est important pour être robuste, c'est être capable de changer. C'est-à-dire que si vous voulez être robuste, il faut être capable de vous adapter au cours du développement, bien entendu, à ce qui va se passer dans le ventre de la mère si vous êtes un mammifère, ailleurs si vous n'êtes pas un mammifère, mais aussi au cours de l'évolution, vous adapter au changement du milieu. C'est-à-dire qu'un organisme trop robuste qui serait totalement déterminé, contraint, ne serait pas évolutif. Hein, on peut dire qu'il n'aurait aucun avenir. Hein. L'évolution des espèces, hein, et celle aussi des individus, et les deux choses sont extraordinairement liées, hein, je pense qu'au cours du cours, on aura le temps de le voir, à des degrés divers, celle des individus, dépend de cette capacité, justement, à s'adapter aux différentes circonstances. Alors, évidemment, pour ce qui est des individus, c'est-à-dire pour ce qui est d'adaptation des individus, c'est ce qu'on appelle l'individuation, et la capacité d'un individu à évoluer lui-même au cours de sa vie, à changer lui-même au cours de sa vie, c'est des chapitres sur lesquels je viendrai, je pense, plus tard dans la structure du cours, c'est une capacité qui, elle-même, varie avec les espèces. Hein. C'est-à-dire qu'un sapiens va avoir plus de capacité d'individuation qu'une mouche. Ça ne veut pas dire qu'une mouche n'a pas une capacité d'individuation. C'est-à-dire que la force de ce qu'on appelle l'épigénétique est variable en fonction des espèces. Et ça, c'est une chose évidemment, qui a à voir avec le cours. Donc j'y consacrerai une leçon directement. Donc, mais quand même, retenez immédiatement que l'évolvabilité individuelle est chez Sapiens très très forte à cause de l'éruption de ce qu'on appelle la culture, tout simplement. Et la science et la technique font partie de cette culture comme source épigénétique d'adaptation. Et ça, je le dis malgré... je ne voudrais pas déplaire aux amis des bêtes, mais nous sommes nettement plus évolués de ce point de vue que le plus évolué de nos cousins, que vous connaissez comme moi, bien entendu. Donc, pour en revenir au cas général, je pense qu'une espèce qui aurait oublié son évolvabilité, ou qui, dans son kit d'évolvabilité, n'aurait pas prévu les outils qui permettent de faire face à un défi environnemental, ne saura pas sauter l'obstacle, c'est-à-dire qu'il sera éliminé par la sélection naturelle. C'est pour ça que la robustesse d'une espèce doit aussi inclure sa capacité à évoluer, sinon ça sera la star d'une seconde, sans lendemain et sans descendance à long terme. Donc, même si de toute façon, toutes les espèces auront un terme. On ne pourrait pas être pessimiste, mais je pense que c'est une des lois des lois du système. En tout cas, à terme, à 3 milliards d'années, quand le système solaire va exploser, à moins qu'on ait trouvé un autre truc avant, je pense que ce sera la fin pour tout le monde. Bon ça, n'y pensons pas. Donc, cette évolvabilité réside dans la capacité à générer rapidement, et ça peut aller très vite, des phénotypes nouveaux à partir d'un même génotype, ou à la suite d'un nombre limité de modifications de ce génotype. Donc, de ce fait, on est loin d'un système, si vous voulez, où le génotype serait un il faut, je crois, sortir d'une vision génocentrée du monde. C'est-à-dire que le génotype n'est pas quelque chose qui nous contraint totalement à un destin phénotypique. Donc là, je vous ai mis une espèce de diapositive qui vous montre quelque chose qu'on appelle dans le langage, dans notre langage, une projection de l'espace des génotypes sur l'espace des phénotypes. Et là, j'ai pris des cas qui sont en fait intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, plusieurs, il y a des génotypes qui n'ont pas de phénotype. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mutations qui vont être létales, c'est-à-dire qu'on ne va pas se développer selon un organisme. On peut avoir aussi un même phénotype. Vous voyez, la longueur, là, ça correspond à trois petites unités. C'est-à-dire qu'un même phénotype pourra être créé par exemple, trois génotypes différents dans l'individu. Par ailleurs, on peut avoir le contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un génotype qui va donner N phénotypes. C'est le plus souvent le cas. Donc, vous voyez qu'une fois le génotype donné, ce développement du génotype au phénotype va nous amener dans un espace très très différent, lui aussi très variable, et qui est fonction de ce qui va se passer entre la fécondation, et même avant, vous le verrez, avant la fécondation, c'est ce qu'il y a dans l'œuf de la mère, il y a une hérédité maternelle qui n'est pas négligeable, et puis l'apparition de l'animal, et du moment aussi où vous allez regarder le phénotype. C'est-à-dire que le phénotype d'un individu, si vous prenez un homme par exemple à 3 ans, n'est pas son phénotype à 30 ans. Et évidemment, ce qui va se passer au cours de son développement, y compris de son développement chez l'adulte, va avoir des conséquences sur le phénotype final. C'est évidemment ce qu'on appelle l'épigénèse. Donc ça, c'est une complication, bien entendu. Je vous ai dit chez l'adulte, mais aussi c'est une complication... pour ce qui nous intéresse ici, parce qu'il m'intéresse moi plus particulièrement, aussi au cours du développement, parce que il ne faut pas oublier que le génome est dans un milieu, c'est-à-dire que la cellule est le milieu pour le génome, l'embryon est le milieu pour la cellule, la mère est le milieu pour l'embryon. Donc en fait, tous ces phénomènes d'environnement du génome agissent, évidemment, sur le génome de l'embryon. Donc il y a un milieu intérieur, d'une certaine façon, pas plus un milieu intérieur, qui est évidemment fondamental, pour ce qui est du développement de votre animal. Donc, cette façon de voir les choses n'est pas récente, mais disons qu'elle nous écarte d'une vision dont je pense qu'elle est par trop génocentrique du monde et qui nous a été léguée par la théorie synthétique de l'évolution, bien entendu. Donc vous savez que la théorie synthétique de l'évolution c'était essentiellement défendue par Mayer, et donc on voyait d'une certaine façon qu'une fois le génome donné, on pensait que bon, tout était terminé, en gros. Hein. Des gens comme Dawkins aussi ont une vision de ce type. Mais ce schéma vous montre qu'en fait, c'est plus compliqué, qu'il y a des rapports réciproques d'interaction entre le développement et l'évolution, ça c'est clair, hein, et que, bien entendu, l'environnement plus général, au-delà de l'organisme, hein, lui aussi joue un rôle fondamental, d'où le fait que c'est plus seulement évo-dévo ou dévo-évo, hein, suivant le sens dans lequel vous parcourez le chemin qui mène de l'évolution au développement, mais éco, évo, dévo, comme le propose Gerd Müller dans un article récent de Nature Genetics. Donc, si maintenant nous poussons le raisonnement un tout petit peu plus loin, c'est ce qu'il faut éviter de penser, c'est que le milieu serait simplement une sorte de filtre à phénotype, hein, ou à génotype. C'est-à-dire qu'une machine à trier les pommes, en gros. Hein, vous voyez le milieu, il y a des trous, et ceux qui passent, c'est les bons, et ceux qui ne passent pas, c'est les mauvais. Hein. Au cours du développement comme de l'évolution, il peut y avoir des contraintes à passer dans les trous qui entraînent une déformation. C'est une illustration un petit peu de ce que je veux dire. C'est-à-dire que, fondamentalement, même les gros peuvent passer par les petits trous à condition de se déformer. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le système que comme ça, où on aurait une sélection tout à fait brutale, hein, d'un génotype à travers un crible qui serait un crible mécanique, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc, je dirais que si on pousse le raisonnement au-delà du raisonnement embryonnaire, pour envisager un développement qui se poursuit chez l'adulte, hein, et en particulier à partir du système nerveux, le système nerveux se développe, continue de se développer chez l'adulte, mais pas uniquement le système nerveux, le système immunitaire. Hein, votre système immunitaire se développe chez l'adulte et va évidemment sélectionner des sous-types de cellules B ou T en fonction des défis qu'il va rencontrer dans l'environnement. Il n'y a pas que le nerve, il n'y a pas que le cerveau. C'est important le cerveau, je ne dirais pas le contraire, mais le système immunitaire, c'est aussi important. Je pense qu'on peut vivre plus facilement sans cerveau que sans système immunitaire. Sans cerveau jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder le cerveau rhombo-encéphalique. Mais le cortex n'est pas absolument indispensable à la survie. Donc, moins que le foie, moins que le cœur. Donc, ce n'est pas pour relativiser l'importance du cerveau, vous vous doutez bien. Hein. Donc, le système immunitaire, et à partir du même phénotype de départ, on contient non pas un, mais une infinité de phénotypes possibles. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est une infinité de phénotypes possibles, et vous avez aussi un phénotype qui se développe infiniment. Donc une forme qui va se développer indéfiniment et même infiniment au cours de votre développement embryonnaire, post-embryonnaire et adulte, jusqu'à évidemment jusqu'au moment où ça bascule dans le néant et bon, c'est fini quoi. Donc je pense que de ce point de vue, l'évolvabilité, qui est le concept que je vais vous développer pendant cette année, présente pour moi deux figures: celle d'un ensemble génétique, hein, bien entendu, qui au fond en dessous là, hein, et puis une histoire, hein, qui est l'histoire du développement, mais aussi l'histoire de choix, qui sont des choix un petit peu difficiles. Alors évidemment, depuis on a dit voilà, j'ai une cellule, elle va migrer le lendemain, et puis hop, elle va bifurquer, ça va faire du muscle ou du foie ou de la pâte ou de l'œil ou du neurone. Mais au cours de l'évolution, vous avez aussi éventuellement des bifurcations de ce genre. Donc, et cette idée d'espace épigénétique a été développée par quelqu'un qui s'appelait Conrad Hall Wannington, que vous voyez ici, fumant la pipe. Et vous voyez un petit peu cette citation que j'ai prise de Wannington, c'est qu'il y a un tamponnage du génotype. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations mineures du bruit au cours du développement, c'est-à-dire que ce n'est pas une machine, donc les cellules se développent, il y en a une qui va claquer, on ne sait pas pourquoi, elle ne va pas prendre la bonne direction, etc. Mais il y a un système de tamponnage, sens de tampon, de buffer, qui fait qu'au bout du compte, vous allez avoir normalement un organisme bien constitué. Mais il peut arriver des événements qui vont faire que si ce n'est pas bien tamponné, hein, eh bien, au lieu de prendre la bonne vallée, vous allez prendre une vallée parallèle et arriver dans un trou de potentiel qui va vous donner un organisme totalement différent, éventuellement. Hein, un monstre. Hein. Je vais vous montrer comment on peut obtenir des monstres facilement à génotype égal. Hein. Et ce monstre que vous allez fabriquer, c'est un monstre parce que vous avez une idée de ce qui est normal. Mais supposez une seconde que ce monstre soit mieux adapté que vous, eh bien c'est le monstre qui, et qu'il puisse se reproduire, eh bien ce monstre peut, au cours de quelques générations, prendre le dessus. Et d'une certaine façon, je pense que nous sommes des monstres. C'est-à-dire que Sapiens est le cas typique d'un monstre qui a évolué extraordinairement rapidement. On ne sait pas comment, mais évidemment c'est une question qui n'est pas inintéressante de poser. Je pense. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est se présenter ça comme un ensemble cellulaire, des ensembles cellulaires qui peuvent donner un nombre infini de formes, à une forme qui change, comme je l'ai dit, indéfiniment et de façon imprédictible. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire que le changement d'une forme, par exemple, nous-mêmes, en tant que forme vivante qui évoluons, au niveau cérébral en particulier, eh bien, nous avons des changements infinis, indéfinis et imprédictibles, ce qui évidemment n'exclut pas, hein, et je ne veux pas me faire pas dire ce que je n'ai pas dit, ce qui n'exclut pas un déterminisme génétique sous-jacent, mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant prédictible. Voilà. Donc, chaos. Voilà, chaos. Donc, l'affaire se complique encore. Je vais vous donner quand même une idée de toute la complexité de la chose. L'affaire se complique encore parce que le génome lui-même n'est pas un ensemble solide. Hein. Le génome lui-même est quelque chose d'extraordinairement flexible, fluide. Il y a des mutations, bien entendu, mais il y a aussi des éléments génétiques qui bougent, qui vont aller se mettre ailleurs. Donc c'est aussi lui-même un ensemble fluide. C'est-à-dire que le génome est un environnement pour lui-même. Qui évidemment ne simplifie pas notre affaire. C'est une structure déformable et l'expression du génome elle-même, par le biais évidemment de la structure de la chromatine, est une structure déformable. Donc il faudra s'habituer à l'idée que rien n'est fixe et que le changement est la règle et que les structures à venir, que ce soit sur le plan de l'évolution des espèces ou de celle des individus, sont imprévisibles. Évidemment, dans un contexte, hein, un contexte évidemment qui est fixé par la nécessité d'une certaine résistance au changement, qu'on appelle justement la robustesse. Hein. Et donc c'est cet équilibre entre robustesse et plasticité je présente le cours actuellement, je vous présente le cours de l'année, donc qui va faire l'objet du cours de cette année. Donc pour en revenir à la théorie synthétique de l'évolution, qui était développé et promu hein, par des généticiens et aussi par des mathématiciens, on ne peut plus dire aujourd'hui que le phénotype est un génotype actualisé hein, au sens d'Aristote, sur lequel la sélection naturelle agirait à la manière d'un filtre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que cette idée quand même d'une évolution graduelle avec des petites modifications, avec la sélection qui agit au niveau comme un filtre, c'est fait jour, bah, évidemment parce qu'elle est chez Darwin. Hein. Au départ, elle est chez Darwin. Et pour des raisons qu'on pourrait développer, c'est-à-dire que à l'époque, si vous voulez, l'idée que l'évolution peut marcher par saut, par exemple, était une idée créationniste. Donc on avait besoin pour s'imposer à soi une idée qu'on a une évolution qui est matérialiste, c'est-à-dire que ce n'est pas des créations successives d'espèces, de penser que les mutations d'espèces, les changements d'espèces, étaient le résultat d'accumulation de petites mutations. Et donc cette théorie synthétique est très efficace. Elle est très efficace, je dirais, pour modéliser la survie du plus adapté. Ça, c'est clair. Mais elle n'est pas efficace pour modéliser l'arrivée du mieux adapté. Et un des problèmes majeurs, c'est comment ce mieux adapté arrive. Comment tout d'un coup, il y a une forme biologique nouvelle qui arrive et qui se trouve être mieux adaptée que les formes avec lesquelles elle survit pendant un certain temps, évidemment, en parallèle. Donc Darwin, oui, lui-même, se fait l'avocat de l'accumulation de petites modifications. pas encore de mutation à l'époque, puisque les gènes n'ont pas été découverts. Ce qui a été découvert à l'époque par Mendel, c'est la ségrégation des caractères. D'abord, comme vous savez, les lois de Mendel ne sont redécouvertes qu'après la mort de Darwin, hein, en 1902-1903, en particulier par De Vries. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a montré la ségrégation des caractères qu'on a découvert les gènes. Vous savez que la nature chimique des gènes a été découverte qu'en 1940, par les expériences d'Avril. Donc, au fond, il y a derrière toute cette question de l'évolution, et c'est une des questions difficiles quand on traite de l'évolution des espèces, il y a tout un background idéologique extraordinairement fort. Si Dieu, lui, peut faire des sauts, c'est-à-dire créer des espèces nouvelles, pour Darwin, natura non facit saltum, la nature ne fait pas de sauts. Et je vous rappelle que quand Gould et Eldredge ont mis en avant leur théorie de l'évolution d'apparition rapide des nouvelles espèces, une théorie qui avait été proposée déjà par un type qui s'appelait Richard Goldschmidt en 1940, et qui a failli se faire assassiner au sens métaphorique du terme, bien entendu, par Mayer et ses collègues, il l'a appelée théorie saltationniste, hein, pour bien montrer l'idée qu'on peut faire des sauts dans la création de formes animales et végétales, bien entendu. Donc, voilà quoi. Donc, à travers la discipline baptisée Evo-Devo, qui apparaît aujourd'hui comme une discipline nouvelle, bien que, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas si nouvelle que ça, d'une certaine façon, en tout cas le terme n'est pas si nouveau que ça, nous avons une autre difficulté, c'est que la théorie de l'évolution, comme les théories du développement, sont des théories historiques. Et ça, ça nous pose un autre problème. C'est-à-dire que le problème que ça pose, c'est qu'on ne peut pas reproduire. Hein. Évidemment, je peux fabriquer un arbre phylogénétique, hein, et je sais qu'il y a environ 4 à 7 millions d'années, je me suis séparé, moi, sapiens, c'est Waddington. De Paniscus ou Troglodytes. Hein. Donc, en gros, on peut dessiner ça. Mais il est hors de question, et on peut travailler et découvrir des phénomènes ou des mécanismes universels qui permettent de comprendre l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, en laboratoire, créer de nouvelles espèces, entre guillemets. Hein. De même qu'on peut comprendre des mécanismes universels qui permettent de comprendre comment un individu évolue. Mais de là à faire marche arrière jusque-là, pratiquement, et de repartir dans l'autre sens, ou plutôt partir, si vous voulez, d'un gorille pour repartir vers Sapiens, évidemment, ce n'est pas possible. Hein. Justement, à cause du côté imprédictible de l'évolution. C'est-à-dire que si je reviens à ce point-là en arrière, que je repars, au bout du compte, je ne vais pas trouver les mêmes formes. Hein. Donc, ces choses-là ne se sont produites qu'une fois. Et c'est pour ça que c'est très difficile de discuter de théorie de l'évolution, y compris avec un créationniste, parce qu'il va vous dire, votre théorie, elle est à l'égal de la théorie du créationnisme des espèces créées par Dieu, puisque vous n'êtes pas capable de me démontrer qu'en partant de ce type-là, dont je ne sais même pas qui c'était, Toumaï, hein, 4-7 millions d'années, je peux revenir vers le chimpanzé. Donc, ça remet en cause, et peut-être que je ne voudrais pas discuter ça, ça remet en cause aussi peut-être une certaine idée de ce qu'est la science. Ça remet en cause une certaine forme de positivisme un tout petit peu trop radical qui fait que je ne peux pas réfuter ça, c'est-à-dire que je ne peux pas revenir ici et revenir là. Par contre, ce que je peux, c'est proposer des mécanismes universels qui permettront de comprendre comment on a pu passer de là à là. Et c'est déjà évidemment beaucoup. Pour revenir, je vous donnerai les textes, hein, parce que je ne vais pas lire tout ça, mais c'est vrai que la théorie de l'évolution a été le siège d'énormément de combats idéologiques. Et elle l'est toujours, bien entendu. Vous savez ce qui se passe actuellement aux États-Unis, et on n'est jamais à l'abri de ce genre de folie créationniste. Donc, là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est un article que j'ai pris chez Kitano, je ne sais plus, je crois que c'est 2008 ou 2006, je ne sais plus très bien, sur une illustration de ce qu'on appelle la robustesse biologique. Hein. Donc là, ici, vous avez un système, que ça peut être un champ ou n'importe quoi, avec un attracteur, c'est-à-dire que Si vous prenez votre système et que vous le déplacez, par exemple avec cette flèche verte, vers l'extérieur, il va revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est un système qui est très robuste. C'est-à-dire que je peux l'écarter de l'équilibre, il va y revenir. Donc, au fond, ça tamponne, quoi. Hein. Mais je peux avoir d'autres modèles où je peux déplacer, je peux aller au-delà d'une certaine limite, au bout de laquelle je vais avoir un système instable et ça va être létal. C'est-à-dire que mon organisme ne va pas se développer. Il ne va pas évoluer, il va mourir. Ouais, donc, l'espèce n'aura plus de descendants et c'est terminé. On ne peut pas vivre éternellement dans des conditions qui ne sont pas des conditions qui sont favorables à la survie de cette espèce. Mais je peux avoir des modèles, et ça tient pour l'évolution comme pour le développement, bien entendu, où, étant sorti de cet état attracteur ici, je vais me retrouver rattrapé par une autre forme, hein, par un autre espace de forme. Donc je sors et je peux tomber ici où je vais aller uniquement dans cet espace C, bien entendu, et donc là je vais donner naissance à une nouvelle forme, soit au cours de mon développement, soit au cours de l'évolution, ou bien j'ai une bifurcation possible, c'est-à-dire que je vais avoir un choix entre deux formes. Hein. Et là, c'est typiquement un schéma tel que vous pouvez le voir dans les schémas weddingtoniens, d'une certaine façon, hein, mais illustré d'une façon un tout petit peu différente. Et la robustesse, ça consiste en fait à ne pas pouvoir sortir de cette forme-là. Seulement, l'évolvabilité, ça veut dire que je peux passer d'une forme à l'autre. Et toute la question, c'est comment j'arrive à concilier ces deux espaces de robustesse et d'évolvabilité. Donc, Massimo Piliucci, je ne sais pas si... Non, ça c'est un truc de Chine Caroli, c'est pas le même. Avait écrit un article aussi qui est assez intéressant, qui s'appelle « Est-ce que l'évolvabilité elle-même est évolvable ?» C'est-à-dire, est-ce que le fait l'évolvabilité peut évoluer elle-même ? Donc ça aussi, c'est un problème intéressant. C'est un article qui est sorti dans Nature Reviews Genetics en 2008, et il donne quelques définitions sur cette question, et il souligne la nécessité, et je crois que c'est une vraie nécessité, je suis d'accord, de développer une synthèse, extended evolutionary synthesis, c'est-à-dire que la synthèse moderne, celle de développée par Mayer pour l'essentiel, a besoin, est un grand moment de la théorie de l'évolution. Il ne s'agit pas de dire que ce ne sont pas des grands théoriciens, on en a déjà parlé pour Volpert ou pour d'autres, mais qu'elle a besoin d'être enrichie, c'est-à-dire que la synthèse moderne a besoin d'être enrichie, et il propose plusieurs définitions, en fait, il fait la revue des définitions de l'évolvabilité. Donc, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça, parce que c'est un petit peu long, mais il démontre comment l'évolution, ou la sélection plutôt, peut s'exercer à différents niveaux, au niveau d'une population. Par exemple, les papillons vont avoir un variant qui va s'adapter. Vous savez, en Angleterre, quand il y a eu la pollution atmosphérique, bon, ils avaient des ailes roses, ils vont avoir les ailes grises, comme ça on le verra moins quand il y aura de la suie sur les arbres, en gros. Mais au sein d'une même espèce, ça c'est le bec des pinsons de Darwin, qui va s'allonger après la séparation entre les habitats, ou bien carrément au sein d'une clade, c'est-à-dire tout d'un coup, on va avoir des animaux qui vont avoir une carapace leur apparaître sur le dos et ça va faire des tortues. Hein. La sélection, ce n'est pas uniquement au niveau individuel. Il y a une sélection au niveau individuel, interindividuel, mais c'est aussi une sélection au niveau une lutte entre les espèces. Hein, c'est-à-dire que... Et ça, c'est un concept relativement nouveau, de l'idée qu'il y a aussi une lutte entre les espèces, c'est-à-dire qu'il y a un côté écologique, si vous voulez, qui apparaît dans ce qui est aujourd'hui la théorie de l'évolution. Donc, si je voulais définir l'évolvabilité, je dirais que c'est la capacité de répondre à une modification de l'environnement par la création de formes, hein, au sens large, et de formes nouvelles qui présentent un avantage sélectif. Alors, une autre chose à comprendre, c'est que l'individu, ou l'espèce encore plus, bien entendu, ne saurait prévoir, hein, connaître à l'avance les défis auxquels il va falloir répondre. Je fais un peu l'exception de Sapiens, qui peut, d'une certaine façon, grâce à son cortex, anticiper et donc peut-être se préparer au pire pour l'éviter, mais ou pas. Mais on discutera de ça plus tard. Mais il n'y a pas de théologie dans l'évolvabilité, c'est-à-dire que l'évolvabilité est le fruit du hasard. C'est une histoire comme ça, et ce n'est que par chance, d'une certaine façon, que la réponse sera ou ne sera pas possible. Donc, il doit arriver un moment où ça ne sera plus possible. Et ça veut dire que les individus, les populations, les espèces, les clades ont une espérance de vie limitée. Voilà. D'ailleurs, anticiper, Sapiens anticipe grâce à son cerveau, n'est pas forcément une garantie. L'espérance de survie de Sapiens n'est pas assurée par son cerveau. On peut même dire que son cerveau va peut-être entraîner la perte de Sapiens. Mais ce dont on est sûr, c'est que son cerveau lui a permis de survivre jusqu'à maintenant. Ce qui est en soi un petit miracle quand on regarde la débilité physique de Sapiens par rapport aux autres animaux. Je veux dire, c'est sûr que il y a 120 000 ans, quand on était 10 000 dans la brousse avec les tigres, les singes, tout ça, si on n'avait pas eu l'outil, on ne s'en serait jamais sorti. L'outil et la famille. Pour une fois, je vous fais une défense de la famille. Ça... Bon, j'ai le droit, moi aussi, hein, quand même. Donc j'y reviendrai entre les cours du 9 et 15 décembre, cette histoire, si j'y arrive, parce que, bien entendu, j'ai dû donner des noms aux cours pour avoir le droit à une affichette. Sinon, je n'avais pas le droit à une affichette, mais sachez que je ne me sens tenu de ne suivre aucun des titres que j'ai donnés. Et si je n'arrive pas au bout, je continuerai l'année prochaine si je ne suis pas arrivé au bout de mes télomères. Ça, c'est une autre affaire. Donc, j'espère que non. Donc, un système. Je vais sauter un petit peu là, parce que sinon, je n'arriverai même pas au dixième de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais c'est bien, parce que comme ça, j'en ai préparé pour 4 ans déjà. Là. Donc, un système qui permet une bonne adaptabilité, une bonne forme de robustesse, si vous voulez, c'est la modularité. Hein. Alors, la modularité, c'est caractérisé par l'indépendance de certaines régions du phénotype. C'est-à-dire que, supposez que vous ayez différents organes et dont la forme ou dont la physiologie va être soumise au déterminisme ou plutôt à la régulation par un ensemble de gènes qui est redondant. Hein. Et ça, c'est souvent le cas au cours du développement. C'est-à-dire que les mêmes gènes, on peut faire une jambe, on peut faire un cœur, on peut faire un cerveau. Au fond, c'est toujours les mêmes ensembles de gènes. Mais les éléments régulateurs sont différents. Donc ça, c'est modulaire. Donc vous allez pouvoir faire évoluer indépendamment un organe en modifiant, par exemple, les promoteurs qui régulent l'expression de ces, ou sur les promoteurs qui permettent à des facteurs de transcription toujours les mêmes de se fixer sur les gènes qui sont plus responsables de la formation de cet organe. Hein. C'est pour ça que vous allez pouvoir, par exemple, garder un corps et raccourcir les bras, ou même si ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués dans la formation, ou avoir des jambes plus courtes et des bras plus longs, si vous êtes un gorille, par exemple. Hein. Donc, vous pouvez modifier, d'une façon, la forme des organes, même si ce sont les mêmes gènes, à condition que les éléments régulateurs soient différents. Donc, c'est une forme de modularité qui est extrêmement efficace. Comme ça, on peut muter un endroit sans bousiller tout le reste, en gros. C'est un petit peu ça. Donc, alors cette modularité est intéressante. C'est un des éléments de la robustesse. Évidemment, il y a d'autres... Ce que je voudrais aussi dire, c'est que tout n'est pas possible, bien entendu. C'est-à-dire que, en fonction du passé, il y a un surdéterminisme de ce qui va arriver. C'est-à-dire que vous êtes quand même contraint dans un certain nombre de choix, qui ne sont pas des choix, qui sont liés par le hasard, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Par exemple, il y a des logiques morphologiques. Hein. Tétrapode un jour, tétrapode toujours. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'inventer un nouveau tétrapode, vous pouvez lui faire disparaître les pattes, vous pouvez transformer un lézard en serpent. Mais ça reste quand même un tétrapode. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé dans certaines voies, c'est très difficile de faire marche arrière. Hein. Par exemple, on a la chance, nous, les vertébrés ont un cerveau plat, c'est-à-dire qu'on a un cortex qui est une sorte de feuille. Hein. Chez nous, on a 2 mètres carrés, en gros, on a 4 mm d'épaisseur. Si vous êtes un arthropode, vous avez un ganglion. Hein. Donc, vous avez un ganglion, ça limite vos capacités de développement de votre cerveau. Parce qu'un ganglion comme ça, ce n'est pas jouable. Il faut l'irriguer au centre, ça pourrit, etc. Donc, un ganglion, c'est forcément plus petit. De même, si vous avez un endosquelette ou un exosquelette, ce n'est pas pareil. Si vous avez un exosquelette comme les insectes, ça met une limite à la taille que vous pouvez obtenir. Un endosquelette, ça permet d'avoir des animaux beaucoup plus gros. Donc, en fait, il y a quand même des contraintes qui sont liées aux choix, aux bifurcations qui sont arrivées, parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Donc, on est quand même entraîné dans une espèce de direction, malgré tout. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un organisme. Enfin, c'est ni bien ni mal, je n'ai pas d'opinion sur la question. Donc, voilà. Donc, L'autre chose qui est intéressante dans l'histoire des volvabilités, c'est qu'il peut y avoir des espaces neutres. C'est-à-dire qu'au fond, on peut avoir plein de modifications éventuellement génétiques hein, qui ne vont pas modifier le génotype. C'est-à-dire que vous allez avoir des espaces où vous pouvez glisser à l'intérieur de cet espace de façon neutre, mais vous rapprochez de bords où ça va changer. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous permet d'aller à la limite d'un endroit où il peut y avoir une évolution possible sans entre-temps avoir vous pouvez accumuler des mutations comme ça, et puis ça ne va pas se voir. Puis d'un coup, il y aura un effet seuil et vous allez créer une forme nouvelle. Donc, dans ce paysage, hein, c'est une sorte de paysage, il y a des régions qui permettent des transitions de forme, hein, parfois brutales. Mais si ces glissements n'étaient pas possibles, alors le système serait contraint. C'est-à-dire qu'on serait contraint au point de départ. On ne pourrait pas glisser dans cet espace que je vous ai montré tout à l'heure avec les flèches comme ça. On peut se promener là-dedans et puis on va arriver près d'un bord. Et là, la mutation de trop... ou pas, je veux dire, c'est pas ni bien ni mal. Donc, de nouveau, là, je crois que vous auriez intérêt à regarder l'article de Kitano, si ça vous intéresse. C'est extraordinairement bien décrit. Donc, avant de passer aux travaux pratiques, hein, on va commencer les travaux pratiques dans un moment, je voudrais encore vous signaler un article, celui de Sean Carroll, dans Cell, en 2008. Et ce que j'aime bien ce qu'il dit, la synthèse moderne a fusionné plusieurs disciplines, hein, en particulier la génétique, la paléontologie et la systématique. Hein. Mais elle a oublié l'embryologie et la biologie du développement dans cet édifice. Donc ça a changé, et ça a changé en 1984. Donc c'est pas si vieux. Hein. C'est en 1984, en fait, à travers la découverte des gènes de développement, que l'embryologie, la biologie du développement, la génétique du développement sont entrées dans la synthèse moderne. C'est à partir de là qu'on va pouvoir faire une nouvelle synthèse au point de vue de la théorie des évolutions. Donc, ces gènes de développement, qui très majoritairement encodent des facteurs de transcription, font qu'on s'intéresse plus aujourd'hui à la régulation de l'expression du génome, beaucoup moins, je n'ai pas dit que c'est pas parce que c'est moins intéressant, mais on s'en intéresse, c'est de fait, on s'en intéresse beaucoup moins à des phénomènes comme les duplications géniques, par exemple, dont on pensait que c'était la clé de l'évolution. On s'intéresse beaucoup moins, si vous voulez, aux variants structurels de protéines, aussi, des choses comme ça qui ont été des grands must de la théorie de l'évolution. Et on s'intéresse beaucoup plus aux changements dans les systèmes de régulation, hein, comme source possible de l'évolution morphologique. Hein. Donc, il y a plusieurs principes. Le principe de pléiotropie, hein, un même gène peut avoir des fonctions morphologiques différentes, distinctes selon le domaine d'activité. Par exemple, la dernière, je vous ai montré comment Sonic Hedgehog influençait le patterning dorso-ventral du tube neural et en même temps permettait de faire un nombre de doigts raisonnable. Raisonnable pour un oiseau, c'est 3, pour nous, c'est 5. Hein. Donc, il y a une complexité génétique ancestrale, par exemple, les complexes OX. Hein, avant, les gens pensaient que l'évolution, c'était par augmentation de la complexité. On s'est rendu compte que ça pouvait être aussi par simplification de ces gènes. Donc, les mêmes complexes ont été conservés et ils sont actifs dans une grande variété d'organismes. Les cascades de signalisation aussi ont été extraordinairement conservées à travers l'évolution. Il y a aussi l'équivalence fonctionnelle de ce qu'on appelle les orthologues, c'est les gènes qui sont homologues à travers l'évolution ou des paralogues. Par exemple, OTD chez la mouche et OTX2 chez la souris. Chez nous, vous vous rappelez, si je retire OTD chez une mouche, elle perd la tête. Si je retire OTX2 chez un homme, il perd la tête. Si je prends OTX2 à la place d'OTD chez la mouche récupère la tête. Et si je prends OTD de mouche et que je le mets chez l'homme, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc, mais chez la souris, ça marche, à condition évidemment qu'on garde les séquences régulatrices de la souris. Si on prend des séquences régulatrices de la mouche, ça ne marche pas. Et de nouveau, ça vous montre que ce qui est important, ce n'est pas tellement la séquence génique, bien qu'elle soit importante, mais... pendant combien de temps et où le gène s'exprime. Ça, c'est la régulation, donc de nouveau. Donc, on est revenu un petit peu sur les questions de duplication, en tant qu'elles étaient très à la mode au moment où on a découvert les complexes OX. Ed Lewis, qui a eu un prix Nobel de médecine, qui a découvert, d'une certaine façon, les complexes OX, comment ça fonctionnait sur le plan génétique chez les mouches, avait proposé l'évolution par duplication. Par exemple, je suis un animal, j'ai une paire d'ailes et une paire de pattes, je me duplique, j'ai deux paires d'ailes, deux paires de pattes, je me duplique encore, j'ai trois paires d'ailes, trois paires de pattes, qu'est-ce que je vais faire avec trois paires d'ailes, trois paires de pattes? Je vais transformer une paire d'ailes en balancier, par exemple, comme ça je volerai droit, une paire de pattes en mâchoire. Voilà, donc c'était des schémas qui ont été proposés sur la base de duplications pendant très longtemps, qui sont aujourd'hui un petit peu moins à la mode. Donc la modularité, je vous en ai parlé, et l'histoire aussi qu'il y a des très très grands systèmes régulateurs, c'est-à-dire qu'il y a des hubs dans le système, un petit peu comme dans les aéroports, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds qui sont des nœuds extraordinairement importants dans la régulation de grands ensembles géniques, et que quand je touche un hub, vous allez voir que ce n'est pas vrai, c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, quand je touche un hub, je peux entraîner des grandes modifications avec des sauts. Et en fait, je vais vous montrer, si j'ai le temps, mais peut-être la prochaine fois, j'ai fait à peu près un dixième de ce que je voulais, je vous montrerai comment chez la bactérie en particulier, où on a à peu près 300 facteurs de transcription, j'en ai une quinzaine qui sont en haut de la hiérarchie. Et si je modifie les patterns d'expression en modifiant les promoteurs sur ces gènes, et que je fais de la biologie synthétique, c'est-à-dire que je fais une nouvelle bactérie, eh bien, en tout cas dans les conditions de laboratoire, elle se porte aussi bien que les autres. Et des fois, quand je mets un stress sélectif, elle se porte mieux que les autres. Donc, je reviendrai là-dessus, parce que c'est une des choses qui est extrêmement amusante. Bon, bref, il ressort de tout ça que les éléments régulateurs en 6, c'est-à-dire ce qui est devant le gène, et ce qui peut être aussi à l'intérieur du gène si c'est un intron, ou ce qui peut être aussi sur un autre gène si j'imagine des éléments régulateurs en trans, et leur évolution ont un rôle clé dans l'évolution morphologique. Ça, je crois que tout le monde en sera d'accord là-dessus. Alors, comment ça peut évoluer, un élément 6 régulateur? Ben, ça peut, par exemple, coopter des nouveaux facteurs de transcription. C'est-à-dire que si je mute un élément régulateur, il va pouvoir accueillir un nouveau facteur de transcription et accueillir une nouvelle propriété. Hein. Je peux aussi avoir une cooptation d'éléments transposables. C'est-à-dire que vous savez que je vous dis que le génome bougeait beaucoup. Si d'un coup, j'ai un morceau de gène qui va se mettre dans mon élément régulateur, ça va me le modifier. Il va peut-être perdre des propriétés. Mais perdre des propriétés, c'est la même chose que d'en acquérir. C'est changé, de toute façon. Hein. Donc, il va être différent. Il peut perdre des sites de fixation et en acquérir, on l'a dit. Et puis, non, on peut modifier l'affinité, le nombre, etc. Donc, en fait, ce sont des principes très, très généraux. Donc, maintenant, j'ai rentré dans le détail de certaines choses. Et justement, il va arriver. Voilà. Donc, ça, c'est l'article dont je vous parlais. Je vais revenir en arrière. C'est l'article dont je vous parlais sur les bactéries. Donc ça, c'est un article qui est très, très rigolo, qui est sorti en 2008, dans Nature. Oui, c'est dans Nature. Et voilà le schéma théorique. C'est-à-dire que vous avez, disons, environ 7 gènes très importants qui sont, chez la bactérie, c'est les facteurs sigma, par exemple, qui régulent la transcription. Et puis, vous avez en dessous, dans un schéma hiérarchique, environ une cinquantaine de gènes. Et puis encore en dessous, disons, 350 gènes, qui sont tous, disons, des facteurs de transcription, pour faire simple. Et c'est hiérarchique dans la mesure où c'est top-bottom, c'est-à-dire que ceux-là contrôlent ceux-là, qui contrôlent ceux-là, même si, évidemment, s'il y a des voies de retour. C'est jamais entièrement univoque, ces affaires. Mais grossièrement, disons qu'on va plutôt dans ce sens-là. Maintenant, je remonte parfois dans ce sens-là, et puis j'ai des éléments d'auto-activation. Donc, en gros, c'est le schéma, c'est ce que j'ai pu en simplifier, en tout cas, pour vous. Et ici, ce que vous avez en noir, c'est les réseaux de gènes normaux. Alors, par exemple, je vous ai donné 4 gènes que j'appellerais des gènes maîtres, hein, parmi les 6 du sommet ou les 7 du sommet. Donc, ils ont ce qu'on appelle un open reading frame, c'est-à-dire ce qui va traduire la protéine. Et puis, il y a un promoteur, c'est ce qui va réguler l'endroit, le moment, la réponse aux nutriments, si je retire le maltose ou si je rajoute du maltose, etc. Donc, quand j'ai la même couleur, c'est le truc normal. Donc, j'ai du vert, j'ai du jaune, j'ai du mauve et j'ai du rouge. Et puis, ce que je fais, c'est que je duplique l'ORF1, c'est-à-dire que je rajoute un élément ORF1, ou 10, ou 20, ou 100. Et, comme je suis voyou, je mets le promoteur du numéro 3. C'est-à-dire que, maintenant, le 1 va être exprimé quand le 3 devrait l'être. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute des connexions dans mon réseau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement les noirs, maintenant, je vais avoir les rouges, parce que comme ORF1 régule P3, il va maintenant réguler aussi P3, donc aussi ORF1. Donc maintenant, j'ai une flèche rouge dans ce sens-là. De même, maintenant, celui-là, il va faire P2. Il n'aurait pas dû le faire, mais il va le faire parce qu'il est devenu... lui, il le fait normalement. Mais il va le faire quand il va être exprimé, quand P3 devrait l'être. Donc, vous voyez, donc toutes ces flèches rouges-là sont de nouvelles interactions géniques à l'intérieur de mon système. Et ça, ça, normalement, ça doit me mettre un bazar incroyable dans ma bactérie. C'est-à-dire que, ben, en fait, ça ne met pas du tout de bazar dans la bactérie. Ça, c'était une des grandes surprises. C'est-à-dire que si maintenant on fait pousser ces bactéries, on se rend compte que ces bactéries, elles poussent extrêmement bien. Et même mieux que ça, je vous ai dit, dans certaines contraintes, un heat shock, par exemple, où on les fait pousser à saturation jusqu'à ce qu'elles étouffent et puis on les dilue pour les faire repartir, et on se rend compte qu'il y a certains variants, hein, qui sont mieux que la souche sauvage. Hein, donc c'est de l'évolution expérimentale, c'est ce qu'on appelle de la biologie synthétique. Synthétique, si on veut, quoi, c'est pas énorme, mais ça montre que. Et pourtant, ce sont des. Et pourtant, on modifie dans ce qu'on appelle les hubs. Hein. Donc, oui, monsieur.
S'il vous plaît, c'est quoi mieux ?
Comment ?
Mieux,
c'est que je laisse plus de survivants. Voilà. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, je prends cette bactérie-là que j'ai modifiée, et je la mets en compétition avec 23, une bactérie pour 23, entre guillemets, du sauvage. Hein. Et maintenant, je les mets dans un fermenteur, et je laisse pousser. Et puis, de temps en temps, je monte la température à 40 degrés, d'accord, pour leur donner un petit stress. Et au bout de N générations, je regarde quelles sont les bactéries qui sont dominantes. Eh bien, si ce sont les nouvelles bactéries qui sont dominantes, je dirais que c'est mieux parce qu'elles ont laissé plus de descendants. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Évidemment, ça n'a pas de valeur morale. Voilà. Donc, ça veut dire que les hub genes, les gènes de hub, ne sont pas, si vous voulez, le talon d'Achille du système. En tout cas, dans ce système-là. Et non, ça remet en cause pas mal d'histoires. Donc, j'ai un petit peu dérivé. Hein, je vais revenir sur une des questions qui a été soulevée par Waddington, si vous voulez bien. En vous présentant pour la fois suivante, je voulais le faire aujourd'hui, mais je ferai la suivante, une classe de molécules, une classe de molécules extraordinairement intéressante du point de vue du développement de l'évolution qu'on appelle les heat shocks. Hein. Ça tombe bien, je viens de vous parler d'un choc thermique, heat shock. Hein. Donc, ces protéines de choc thermique, et en particulier une d'entre elles avec laquelle je vais vous embêter pendant un certain temps, qui s'appelle HSP90, HSP90 contrôle les états métastables des protéines. C'est-à-dire qu'il y a des protéines qui sont un peu instables comme ça, ou si elles sont mal fichues, elles sont encore plus instables. Et elles peuvent être maintenues dans une conformation physiologique correcte grâce à une protéine de heat shock qui est HSP90 en particulier. Donc, ces protéines ont une fonction physiologique naturelle, normale. Mais elles peuvent être activées au moment où on fait un stress à la cellule, à l'organisme, à l'embryon, à ce que vous voudrez. Parce que quand on fait un stress, on va dénaturer d'autres protéines qui vont se trouver dénaturées. Donc, si on veut les maintenir dans un état, je vais vous faire exceptionnellement un raisonnement théologique, l'induction des HSP permet de corriger cet état instable de ces protéines qui souffrent à cause d'un stress oxydatif, à cause d'un stress thermique. Voilà. Si vous avez de la température, si vous passez à 40 degrés pendant quelques jours, vous allez immédiatement faire des protéines de heat shock qui vont vous permettre de survivre un certain temps. Si vous restez à 40 degrés pendant 3 semaines, bon, tant pis. Mais ce n'est pas beaucoup, 40 degrés. Hein. Ça fait que vous augmentez votre température de 10% pendant 3 semaines et vous êtes mort. Donc, ça montre que quand même le système doit être assez robuste. Hein. On ne peut pas laisser la chose dériver trop longtemps. Et quand je dis la température, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, ces protéines, je dis, elles jouent contre les radicaux libres. Alors, comment ça fonctionne, ça ? Ça fonctionne avec de l'ATP, c'est-à-dire que... Alors là, c'est la vision des gens qui ont trop joué au mécano, si vous voulez. Hein. Donc, vous avez ici une protéine de heat shock, sur un dimère, il y a un petit clapet en haut, ça récupère de l'ATP, j'ai mis 3 points rouges pour montrer qu'il y a 3, c'est de l'ATP, hein, et puis ça ferme, et à ce moment-là, ça va changer de conformation, c'est-à-dire qu'on va avoir un truc comme ça, voilà. Et puis, ça libère, ça hydrolyse l'ATP, vous voyez que là, le petit point rouge est un peu libéré, et puis je me rouvre, etc. Et donc, j'ai un cycle comme ça d'hydrolyse de l'ATP qui va me permettre, dans certaines conformations, à ma protéine de se fixer à d'autres protéines. Si je veux inhiber, c'est pour ça que je vous montre ça, si je veux inhiber une protéine de heat shock, j'ai une façon de le faire, c'est d'ajouter des drogues qui vont aller se mettre dans la poche, c'est-à-dire empêcher l'ATP de se mettre dans la protéine de heat shock. Donc, il y a beaucoup de molécules qui sont anti-heat shock, comme la geldamicine, je ne sais pas, la geldamicine, je ne sais rien, ou 17-AAG, qui sont utilisés aujourd'hui dans des contextes de pathologie, en particulier sont dans certaines phases, je crois, de développement pour le cancer, qui sont fondées sur l'inhibition des protéines de Hitchcock en venant se mettre ici dans cette petite poche, gel d'anamycine. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, vous avez une protéine, vous voyez le ribosome ici, donc la protéine est synthétisée. Et normalement, la plupart des protéines vont suivre ce chemin, c'est-à-dire donner une bonne protéine. C'est-à-dire, je veux dire, une protéine stable qui fait son boulot normalement. Hein. Mais vous allez avoir aussi une partie qui va avoir un petit problème de traduction, il peut avoir une mutation, il peut avoir quelque chose qui ne va pas, et va avoir un état mal conformé. Donc celle-là, elle est mal conformée, celle-là, elle est bien conformée. Donc je peux aussi, au cours du repliement, passer dans un état mal conformé. Je peux aussi repasser dans ce sens-là. Mais ce que vont faire mes Hitchcock, hein, c'est de m'aider, même celles qui sont mal conformées, à revenir dans une situation comme ça. Sinon, ce qui va m'arriver, c'est que je vais passer dans le protéasome, c'est-à-dire que je vais être dégradé. Je vais être mangé par le protéasome. C'est-à-dire que je vais être ubiquitinylé, et puis je vais être dégradé. Donc, les protéines de Hitchcock sont très importantes pour réguler, d'une façon, la quantité de protéines qui sont dans un état actif. Hein. Et je vais vous donner juste un exemple, parce qu'il est 17h58. On peut rester plus longtemps si vous voulez. Hein. Je comptabiliserai une heure et demie, comme ça j'arrêterai avant le mois de décembre, mais puisque je ne suis tenu de rien, donc c'est quand même formidable. Mais voilà, donc par exemple ici, vous avez, l'année dernière, je vous ai parlé de DPP. Vous vous rappelez, des cas pataplégiques, pour ceux qui étaient là, qui est un morphogène très important chez les drosophiles, chez les sapiens, chez tout le monde, quoi. Et le TGF-bêta, c'est de la famille des BMP, bonne morphological factor, protéine, pardon. Et vous voyez qu'il se fixe sur un récepteur qui est en fait un dimère. Hein. Donc, un dimère. Et ce qu'on a réalisé, c'est que, au fond, pour que ce dimère soit actif, pour que TGF soit actif, il faut qu'en fait, on soit fixé, qu'une des sous-unités du récepteur TGF soit fixée à HSP90. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette fixation maintient le système dans une conformation qui permet la transduction des signaux, c'est-à-dire la phosphorylation, il y a une association avec SMAD4 aussi, une phosphorylation des facteurs de transcription qui vont entraîner la traduction de la fixation du TGF en expression d'une certaine partie de mon génome dans ma cellule. Alors, je mets du 17-AG, c'est-à-dire que si je vais maintenant me mettre dans la petite poche à ATP de mon HSP90, c'est-à-dire je vais bloquer cette action d'HSP90, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais avoir une ubiquitination de mon récepteur, c'est-à-dire qu'il va être reconnu comme anormal, c'est-à-dire qu'il va prendre, il va changer de conformation. Changeant de conformation, il va être reconnu comme une protéine anormale, et du coup, il va être envoyé vers la machine à dégrader. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que, de façon extrêmement simple, l'interaction de HSP90 avec ce qu'on appelle des protéines clientes, hein, va réguler l'activité de ces protéines clientes. Et ça va le faire au cours du développement, mais aussi au cours de toute la physiologie de l'organisme. Or, il y a énormément, et vous voyez que cette protéine cliente est particulièrement importante pour ce qui est de la morphogénèse, puisque, pour ceux qui étaient là l'année dernière, mais pour ceux qui resteront cette année, le TGF est un morphogène extraordinairement important. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement un morphogène important, c'est aussi des actions physiologiques après la morphogénèse, mais c'est une cible, donc, de HSP90. Et HSP90 a énormément de clients. Nous y reviendrons probablement au cours du cours. Donc là, c'est pour vous donner envie de revenir. Donc c'est une diapositive empruntée à Cronenberg. Vous voyez que voilà une mouche normale. Hein, et voilà une mouche, vous reconnaissez les yeux, les poils. Ici, c'est le labrum, c'est-à-dire c'est la bouche. Et puis vous avez les antennes ici qui sont là. Et vous voyez que dans un mutant HSP90, eh bien, vous avez une jolie mouche qui se transforme en mouche LED, encore que, évidemment, la mouche ne le sait pas. Je vous signale que ces mouches-là se reproduisent aussi bien que celles-là. Donc, apparemment, ça ne pose pas de problème. La semaine prochaine, nous repartirons de cet exemple pour vous montrer comment des mutations dans ces gènes ou comment des modifications du niveau d'expression de ces Hitchcock peuvent être ce qu'on appelle des capaciteurs d'évolution. Parce que ça, c'est un monstre. Hein. Mais si, par hasard, il y avait des conditions physiologiques dans lesquelles ce monstre était plus adapté que le type normal, c'est lui qui deviendrait la normalité en quelques générations. Je veux vous montrer que c'est effectivement le cas, qu'on peut créer rapidement des monstres qui deviennent en fait des dominants dans le système. Et je vais arrêter là parce que c'est quand même un peu notre cas, comme je vous l'ai dit à un moment du cours. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut toujours répondre.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.